Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ce matin, je vous invite à chercher le premier épître de Pierre. Premier épître de Pierre au chapitre 1, versets 22 à 25. Juste pour mémoire, nous avons vu dans ce premier chapitre de Pierre, du verset 1 à 12, il va s'adresser à ses destinataires, pour leur rappeler ce que Dieu a fait dans leur vie, ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'ils sont devenus en Christ. Et il change maintenant, à partir du verset 13, ses pensées. On dirait le verset 13 me semble comme un tournant dans l'épître où Pierre va aborder un thème, nous l'avons dit à plusieurs reprises, un thème qui lui est cher, à savoir mener une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui est digne de ce que Dieu a fait pour eux, dans les versets 1 à 12, et pour les motiver pour vivre au quotidien une vie sainte, il va donner quatre motivations. Et nous avons vu déjà quelques-unes de ces motivations du verset 14 à 16, et je vous invite à le relire chez vous du verset 14 à 16. Il va leur rappeler la sainteté de Dieu comme source de motivation, parce que la sainteté de Dieu exige leur sainteté. Deuxième source de motivation, verset 17, il va s'appuyer sur l'impartialité du jugement de Dieu, même s'il est leur père. Une troisième source de motivation, du verset 18 au verset 19, et c'est ce que nous avons vu dernièrement, où il va parler de l'efficacité du sang de Christ pour purifier leur vie. Et aujourd'hui, nous arrivons aux quatrièmes motivations du verset 22 à 25, mais le centre de son message est dans le verset 22. Et il va parler de l'efficacité de la parole de Dieu pour développer la vie de Christ en eux. C'est notre sujet ce matin. Et au verset 22, il va aborder un autre aspect d'une vie de sainteté, à savoir manifester l'amour fraternel sans hypocrisie entre les croyants. Nous lisons au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, dans quel but pour avoir un amour fraternel sincère ou sans hypocrisie ?» On pourrait dire que l'aspect le plus élevé, je dirais le plus remarquable de la sainteté, c'est la mise en pratique de l'amour fraternel sincère entre les croyants. C'est l'aspect le plus élevé de la sainteté. Et à ce sujet, donc au verset 22, il leur adresse une exhortation. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Je m'arrête un instant. Que c'est intéressant de regarder dans le texte original le temps du verbe ici. L'impératif « aimez-vous », le temps du verbe suggère une mise en pratique immédiate et concrète. Puis il va motiver cette exhortation en donnant d'une part une affirmation. Vous voyez, le verset 22, « ayant purifié vos âmes ». Donc, en motivant cette exhortation de s'aimer les uns les autres ardemment, il va les motiver par une affirmation, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, d'une part, et d'autre part, il va leur rappeler leur condition, si vous voulez, leur état. Vous avez été régénérés. Nous avons parlé tout à l'heure que du verset 1 à 12, il va leur rappeler ce qui leur sont arrivés, ce que Dieu a fait pour eux, ce qu'ils sont devenus en Christ. Et ici, il leur rappelle, vous avez été régénérés. Donc, une affirmation, un rappel de leur condition ou leur état, va lui servir la base ou le fondement de son exhortation, l'exhortation « Aimez-vous les uns les autres ardemment. » Donc, le fondement de cette exhortation s'appuie sur une affirmation, une condition. Et donc, c'est toujours la même pensée dans les épîtres, surtout de Pierre. Toujours une base doctrinale qui est le fondement d'une pratique ou d'une éthique. Et ce qui fait que c'est une pratique qui est basée sur l'enseignement, la doctrine de la Bible. Donc, je voyais des structures, donc, de ces pensées ainsi. Et j'intitulerai ce message « Vivre dans l'amour fraternel sans hypocrisie ». J'ai hésité, est-ce possible? J'ai dit, c'est possible. Et pour pouvoir aller dans suivre les pensées de l'apôtre Pierre, nous allons, pour cela, nous poser trois questions ce matin. D'abord, qu'est-ce qui rend possible de tel amour? Qu'est-ce qui rend possible de tel amour? Ce qui nous amène à voir le fondement de l'amour fraternel, le verset 22. Deuxième question, qu'est-ce qui produit de tel amour? Ou quel est le moyen qui permet de vivre tel amour? Ceci nous amène à voir les moyens à notre disposition pour vivre dans l'amour fraternel. Il va le développer du verset 23 au verset 25. Et une dernière question que nous allons nous poser, mais quelles sont les qualités de cet amour? Ceci nous amène à voir la description, selon Pierre, de l'amour fraternel. Donc, nous allons regarder le fondement, la base qui permet de vivre d'une manière sincère l'amour les uns pour les autres. Et la Bible nous le dit, Pierre nous le dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc, une vie purifiée. Tournez juste votre Bible dans 2 Pierre, sa deuxième lettre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, au verset 8, il va donner une description d'un véritable chrétien. Et au verset 9, aussi c'est un véritable chrétien, mais qui n'a pas mis en pratique les potentiels de vie qu'ils ont en eux par la présence du Saint-Esprit. Et concernant cette catégorie, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ici, cette catégorie de chrétiens, donc, ne font pas partie de ceux qui ont mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Eux, ils ont, il est dit, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité. Je reviens à la remarque que j'ai dit tout au début, que selon le temps du verbe, cette purification dont Pierre parle correspond à un événement qui a eu lieu dans le passé. Le temps c'est participe parfait dans le grec, et cela suggère un événement qui a eu lieu dans le passé, précisément au moment de leur salut. Et Jésus l'affirme cela dans Jean 15, 3, en parlant à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole. » Vous voyez le lien entre la parole et la purification. Jésus le dit ici, « À cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc je répète, le temps du verbe suggère que cette purification dont Pierre parle correspond à un événement qui a eu lieu dans le passé, au moment de leur salut. Mais cela aura des conséquences durables qui demeurent dans leur vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, chaque jour, leur condition ou notre condition d'être pur doit se traduire dans notre conduite en nous purifiant chaque jour. Je le répète, le temps du verbe, un événement qui s'est passé dans leur vie à un moment donné, mais dont les conséquences vont se traduire tout le restant de leur vie. Vous êtes pur, mais vous devriez vous purifier chaque jour. Ça, c'est l'idée ici. Et cela, l'apôtre Paul confirme très bien dans 2 Corinthiens 7.1. Dans 2 Corinthiens 7.1, où il exhorte ces Corinthiens, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Parce qu'ainsi, nous achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez bien, souillure de la chair et de l'esprit, et on peut comprendre ce qu'il entend par chair et esprit dans le verset 5 du chapitre 7. Il est en train de dire que cette purification va toucher tout notre être entier, l'extérieur. Il va parler, vous regardez le verset 5, il parle de dehors, mais aussi de l'intérieur, il parle de dedans. Donc cette purification va toucher tout notre être entier, l'extérieur et l'intérieur. Jusque-là, donc, on peut dire qu'un véritable croyant est celui qui a été purifié de ses anciens péchés et manifeste cette réalité en se purifiant chaque jour de toutes les souillures du péché. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander, avez-vous l'assurance que vos anciens péchés ont été purifiés? Mais cette question sous-entend que votre vie n'est pas pure avant le moment où vous avez été sauvé. Donc, vous avez besoin d'être purifié. Pourquoi? Par les attitudes, les motivations, le but généralement égoïste et toutes les actions, vous savez, ont un effet polluant, salissant sur votre vie. Jésus va très loin. Vous pouvez avoir ce matin l'air très respectable par votre apparence, l'aspect extérieur, mais sachez, Dieu regarde l'intérieur de vos pensées, de votre cœur, et il voit que vous avez besoin d'être purifié. À son époque, Jésus s'adressant à des hommes religieux, vous pouvez regarder ou noter Matthieu chapitre 23, tournez votre Bible, Matthieu chapitre 23, quand il s'adresse à ces hommes religieux, hein, son verdict est sévère. Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors, l'apparence extérieure, de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est sévère. Peut-être ce matin, vous vous dites, cette parole de Jésus me parle. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas un pratiquant. Mais je me reconnais dans cette description. Et je ressens vivement le besoin d'être purifié. Mais vous dites, mais comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Revenons dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 22. Il leur dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. L'apôtre Pierre déclare que la purification des âmes, si vous voulez le sens ici, de la personne tout entière, passe par la soumission à la vérité. C'est-à-dire que quelque chose va se produire en vous à cause de votre obéissance à la vérité. Je le répète, quelque chose va se produire en vous à cause de l'obéissance à la vérité. Mais, comme disait Pilate, mais qu'est-ce que la vérité? Juste deux versets où nous allons voir l'éclairage de l'apôtre Paul quant à cette question, mais qu'est-ce que la vérité? Regardez avec moi Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Paul donne cet éclairage en lui, en parlant de Christ, vous aussi, en parlant de ces chrétiens païens, non juifs, en lui, c'est-à-dire Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. Et il continue, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Laissez un doigt là-dessus et tournez dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, quant à cette espérance, il va dire que la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Deux choses qu'on peut souligner à partir de ces deux versets quant à la vérité. On peut conclure, à la lumière de ces deux versets, que la vérité fait référence à l'évangile de Jésus-Christ. La vérité fait référence à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, on peut dire que parole de vérité est synonyme de l'évangile. C'est dit. Parole de vérité est synonyme de l'évangile. Mais, en regardant de près, en Éphésiens 1, verset 13, les croyants sont scellés au moment même où ils entendent l'évangile et croient en Christ. C'est écrit en ce blanc. Ils sont scellés du Saint-Esprit au moment même où ils entendent l'évangile et croient en Christ. Il faut se rappeler que le sceau, à l'époque, évoque une appartenance et aussi évoque la sécurité. Cela signifie que tout vrai croyant reçoit l'Esprit de Dieu comme un signe qu'il appartient à Dieu. Et je veux vous rappeler tout simplement le passage biblique confirmant cela, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Donc je répète que tout vrai croyant reçoit l'Esprit de Dieu comme signe qu'il appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ça veut dire, vous l'avez reçu. Il demeure en vous. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez l'idée de l'appartenance, le sceau sur vous indique que vous êtes la propriété de Dieu. En ce moment, vous croyez en Christ. Mais nous venons de voir que ça indique aussi la sécurité. Et au moment où vous êtes scellé, vous êtes gardé en sécurité par Dieu jusqu'au moment de la rédemption de votre corps. Éphésiens 4:30 dit ceci clairement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé, vous voyez, pour le jour de la rédemption. Quand votre corps revêtira le corps incorruptible. Ce que nous attendons tous, c'est l'espérance des chrétiens. Donc au moment où vous obéissez à la vérité, maintenant c'est très clair, l'évangile, obéir à la vérité, c'est croire en Christ, quelque chose se produit en vous. Quelque chose se produit en vous, dit Pierre. D'abord, la purification de vos péchés. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, en parlant de Christ, il dit « Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sur la base de ce sacrifice de Christ, Dieu vous purifie de tous vos péchés. Et vous êtes scellés du Saint-Esprit, attestant ainsi le fait que vous appartenez à Dieu et Dieu vous garde jusqu'au jour de la rédemption. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui fait toute la différence maintenant, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Ce qui n'était pas le cas avant quand votre vie n'était pas purifiée. Vous rendez capable maintenant de vivre quelque chose que vous ne pouvez pas et vous n'avez aucune ressource en vous-même pour le faire. Et Pierre le dit, revenons-nous dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, la soumission à la vérité conduit à un amour fraternel sincère. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire de vous-même. Mais la vie de Dieu en vous vous rend capable maintenant d'aimer vos frères et de manière authentique, sincère, sans hypocrisie. Une vie purifiée, fondement, comme nous venons de voir tout à l'heure, le fondement de l'amour fraternel, mais il va leur rappeler aussi leur condition, être régénéré. Être régénéré vont leur permettre de vivre dans l'amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Mais regardons rapidement, qu'est-ce qu'on entend par régénération? Quand la Bible dit « ils sont régénérés », ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire un nouveau cœur maintenant, un nouveau sens à votre vie, de nouveaux désirs, tout cela vous sont donnés. Et vous avez même de nouvelles aptitudes, des comportements nouveaux. Et tout ceci est rendu possible car la vie de Dieu réside en votre vie. Tout ceci est devenu possible. Il est très intéressant de regarder dans le Nouveau Testament que à chaque fois qu'on parle de la régénération, à la racine, le mot grec, c'est genao. Et un verset que nous connaissons presque par cœur, même depuis tous les petits enfants, Jean, chapitre 1, verset 12 et verset 13, que je cite, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et souligner le verbe lesquels sont nés, genao. De qui? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Né de nouveau, né de Dieu. Jean 3, verset 3, quand Jésus s'adressait à Nicodème, il disait en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, né de nouveau, genao, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la régénération, la nouvelle naissance, si vous voulez, a deux facettes. Vous avez une pièce de monnaie, une pièce de monnaie a deux facettes. Exactement, la régénération a deux facettes. À savoir, il y a l'acte du don de la vie ou d'implantation de la vie. Ça, c'est une facette de la pièce qui est la régénération. L'acte divin qui implante la vie dans notre cœur. Et il y a l'acte, je dirais, passif de naître, qui est la manifestation de la vie. Il y a ces deux choses dans la parole de Dieu quand on parle de la régénération. D'un côté, Dieu qui implante sa vie en nous par la présence du Saint-Esprit, et c'est invisible, mais cette vie va se manifester par la naissance. D'où on parle de nouvelle naissance. Mais des questions viennent se poser maintenant, mais qui implante la vie? Qui implante la vie? Juste deux versets. Deux versets dans Jean 3, 6. Vous pouvez tourner votre Bible. Jean 3, 6. Qui implante la vie? Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, né de qui? De l'esprit. Pour la naissance divine, la nouvelle naissance. Et Jean 3, 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il fait une comparaison, il en est ainsi de tout homme qui est né de qui? De l'esprit. Donc l'acte d'implantation de la vie en nous n'a pas besoin d'intermédiaire, il est effectué directement par le Saint-Esprit et de manière invisible au-dedans de celui ou celle qui croit au Seigneur comme son sauveur. Mais l'implantation de la vie par le Saint-Esprit, selon Jean 3,8, est comparée au mouvement insaisissable du vent. Invisible par l'homme, mais réel. Car c'est une transformation radicale, car c'est l'implantation de la vie divine en vous par le Saint-Esprit. Qui implante la vie? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais question maintenant, mais qu'en est-il de la manifestation de la vie ou de la nouvelle naissance? Et je poserai la question en d'autres termes. Par quel moyen Dieu permet à ce que sa vie, ou bien la vie divine implantée par le Saint-Esprit en nous, se manifeste par la naissance? Je répète, par quel moyen Dieu permet à ce que sa vie implantée en nous se manifeste par la naissance, en parlant de la nouvelle naissance? Jacques répond très clairement. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, la réponse c'est le Saint-Esprit et il agit par la parole de vérité. Le Saint-Esprit agit par la parole de vérité. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est la parole de vérité? Nous venons de voir l'Évangile. Et l'Évangile parle d'une personne, Jésus-Christ. Juste à titre de rappel, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, il est dit, vous avez été régénérés, il dit, par la parole, je saute, pour arriver directement par la parole de Dieu. Donc, le don de la vie et sa manifestation par la naissance, souvent sont très proches. Et quand vous regardez tout cela dans sa globalité, on peut... Et ce que fait la Bible décrit souvent la régénération comme produite par la parole de Dieu. Le moment où la vie est implantée en nous et qui se manifeste par la naissance sont très proches. Et quand vous regardez la parole de Dieu, dans sa globalité, on voit cet événement comme s'il était produit par la parole de Dieu. Et c'est exact ce que nous venons de voir. Mais vous me dites, mais là, tu es hors sujet, là, tu dévies, là. C'est de l'amour fraternel dont on parle. Mais il y a un lien. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer par les pensées de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et cela nous amène, ces détails nous amènent maintenant à répondre au deuxième point. Mais qu'est-ce qui produit donc un amour fraternel sincère? En d'autres termes, c'est le point numéro 2. Quel moyen est mis à notre disposition pour vivre dans l'amour fraternel? Résumons la pensée concernant la régénération. Nous avons dit, la régénération, c'est comme une pièce de monnaie qui a deux facettes. D'abord, on a vu qu'il y a l'aspect du don de la vie, implantation de la vie, une facette, et l'autre facette, la manifestation que cette vie est là par la naissance. Et vous savez très bien que suite à la naissance, quand le bébé sort du ventre de sa maman, il va s'adapter tout de suite à un nouvel environnement. Pour la première fois, il va respirer l'air. Et c'est un signe que les sages-femmes, hein, attend, et les mamans, papa, attend, et, hein, la vie est manifestée par la naissance, mais ça l'amène maintenant à un autre point de respirer l'air. Et il en est de même spirituellement. Comme un nouveau-né s'adapte sans délai à son nouvel environnement en respirant, une personne née de nouveau manifeste également la vie divine en lui par sa relation, je dirais très active, avec la parole de Dieu. Comme vous respirez l'air, exactement si vous êtes né de nouveau, vous respirez assoiffé par la parole de Dieu. Et ça, c'est une manifestation qui a vie. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Regardez dans 1 Pierre, juste à chapitre 2. Regardez, il le dit. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Pierre lui-même, il exhorte les chrétiens à cela. Il dit, désirez. Et nous parlons de la naissance. Nous parlons d'un nouveau bébé. Un bébé tout gentil. Hein, tout nouveau. Il dit, désirez comme. Vous voyez la comparaison? Des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Implantation de la vie. La vie se manifeste par la naissance. Et cette vie va croître. Et Pierre arrive maintenant, et il va, du verset 23 au verset 25, développer ce moyen qu'est la parole de Dieu. Donc il va développer le moyen qui a permis la nouvelle naissance, c'est la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il fait l'apôtre Pierre. Il va utiliser des comparaisons. D'abord, la parole de Dieu, il va le comparer à une semence. Et dans la Bible, quand on parle de la semence, souvent c'est utilisé métaphoriquement pour la procréation. Et pour parler du sperme, la vie est dedans. Ou parfois, aussi c'est pour parler de la descendance physique. Le mot semence. Genèse 12, verset 1 à 3, par exemple, pour Abraham. Mais ce qui est intéressant, que la parole de Dieu est comparée à une semence, mais surtout qualifiée d'incorruptible. Je dirais que c'est la seule condition pour une semence pour qu'il y ait transmission de la vie. Il faut qu'elle soit incorruptible. Quel est le contraire de incorruptible? Stérile. Vous pouvez avoir l'apparence d'une graine, une vraie graine, mais s'il n'y a pas la vie dedans, vous pouvez semer et ça ne donnera rien. Et la parole de Dieu ici qualifiée d'incorruptible, tout simplement, c'est la seule condition pour une semence pour qu'elle soit vivante. Pour qu'elle soit vivante et non stérile. Donc la semence est qualifiée d'incorruptible parce qu'elle communique la vie. Elle est vivante. Et l'apôtre Pierre le dit, elle est vivante. Parce qu'il dit, cette semence incorruptible égale la parole vivante. Vous voyez? Et Je cite un psalmiste, le psaume 126, où on voit très bien le lien quand les agriculteurs, au moment où il faut semer, donc il faut semer les semences, si un vide, on voit, s'attendra des récoltes. N'est-ce pas? Sauf si la semence est stérile. Et c'est bien illustré dans le psaume 126, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, psaume 126, verset 6, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous voyez, il y a un parallélisme ici. Celui qui marche en pleurant, à l'opposé, revient avec allégresse. Ça va ensemble. Et quand il porte la semence, en parallèle, quand il porte ses gerbes, qu'est-ce qui a changé? La semence devenue des gerbes. Ça manifeste la vie qui a été transmise, et je dirais même multipliée. Donc la semence plantée ou semée produit la récolte, pour, tout simplement parce qu'elle est vivante, non stérile. Donc la parole de Dieu est comparée à une semence, mais la seule condition pour cette semence, il faut qu'elle soit incorruptible, ça veut dire qu'elle est vivante. Mais Pierre va plus loin encore et veut dire, la parole de Dieu aussi, il le qualifie de permanente. C'est pas moi qui l'ai dit, verset 23. Par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de qui? De Dieu. Et si c'est très joli, la manière comment il va argumenter cela, il va se servir d'un contraste pour souligner cette vérité. Et il va citer ce que vous avez maintenant, car, verset 24, il va faire référence à un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 40, versets 6 et 7, qui cite au verset 24 et verset 25. Vous pouvez le vérifier chez vous. Donc, pour mettre en valeur cette manière où la parole est permanente, il va utiliser un contraste. D'une part, dans cette prophétie d'Isaïe, il va souligner dans ce contraste la fragilité et le caractère temporaire, je dirais transitoire de la vie humaine, avec ses limites. Et face à cela, parce qu'il fait un contraste, le caractère éternel de la parole de Dieu. Donc, en se servant de cette citation d'Isaïe, il va souligner d'un côté la fragilité et le caractère temporaire, ou transitoire de la vie humaine face au caractère éternel de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire concrètement? Il est en train de dire que la vie humaine ne dure pas plus que l'herbe. Ça fait réfléchir. Il y a des gens qui se croient être quelqu'un très important. Mais quand on réfléchit à cela, comme l'herbe. Vous pouvez avoir toute la beauté physique. Vous pouvez avoir toutes les célébrités. Vous pouvez avoir tout le pouvoir que vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les richesses que vous voulez dans cette vie humaine. Mais Pierre dit, tout cela est aussi éphémère que les fleurs de l'herbe qui sèchent. Ça me donne à réfléchir pour trouver quel est le vrai sens à donner à une vie alors. L'herbe sèche et les fleurs se flétrissent et meurent. Et en contraste, il va dire, la parole de vérité, l'évangile, demeure éternellement. Par conséquent, la vie nouvelle, la vie divine dans le croyant aussi, demeure éternellement. Parce que c'est une semence qui dure éternellement la parole, qui va produire une vie qui dure éternellement. Et la Bible parle très bien qu'au moment où vous avez cru, vous avez la vie éternelle. Donc, tout tient dans ces arguments. Et ce qui est très fort maintenant, regardez pour terminer ce développement, au verset 25, il dit, « Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » J'étais très touché, et en étudiant de près ce passage, combien il personnalise, s'est adressé à vous, ce message de l'Évangile. Et de quelle parole qui a été annoncée par l'Évangile? tournez votre Bible, chapitre 1, verset 11. Il va faire référence à ce qu'il a développé, ce qu'on a déjà vu dans un des messages, il y a quelque temps, au verset 11 et verset 12, quand il parle de cette parole, celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, regardez verset 11. Il dit, il voulait sonder en parlant donc des prophètes de l'Ancien Testament, sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, il va dire, il fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez souligner, ça revient toujours, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Mais quelles choses? Suivant l'apôtre Pierre, les choses dont il fait référence, c'est les souffrances de Christ, d'abord, et la gloire qui s'en suivra après. C'est clair. Il dit, ces choses que vous ont annoncées, vous, soulignez encore le vous, ont annoncé maintenant. Ça, c'est le prophète des siècles. Maintenant, il s'adresse à ses contemporains. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Ah tiens, c'est ce que nous venons de voir dans le verset 25. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Dit bien la même chose. Ceux qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vont vous en prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit était l'auteur de ce que disaient les prophètes, juste au verset 10. Et le même Saint-Esprit est aussi l'auteur de ce qui leur annonce ou qui leur proclame l'évangile. Voilà, vous me dites, tu t'écartes encore de notre sujet. Quel est le lien? Ah si. Parce que ces chrétiens ont souffert de la persécution. Et ces paroles qu'il leur a adressées d'une manière très personnelle, c'est pour leur aider à avoir une perspective pour mieux voir et mieux vivre les souffrances dont ils sont en train de vivre. Pierre est en train de leur dire que le destin de Christ, à savoir souffrance, qui va traduire sa mort, sa résurrection, d'abord, gloire après. Et quand ils ont cette perspective, leur destin est lié aussi à celui de Christ, parce que vous souffrez maintenant. Souffrance d'abord, gloire aussi après. Donc, quand ils ont cette perspective, ça change tout. La façon de vivre, l'épreuve, la façon de vivre des situations qui vous font souffrir. Je disais ça à Limoges, dimanche dernier, il y avait un pasteur qui est venu à table après me dire... Parce que j'ai illustré, c'est vrai, quand je me rappelais toujours de mes enfants, je ne sais pas s'ils se rappellent, mais toujours, c'était difficile à faire manger les épinards et les petits pois. Et je leur disais, mangez d'abord les épinards, vous avez besoin du fer. Si vous le mangez, parce qu'après les épinards, il y aura le dessert, la glace. Ils mangeaient tant que mal les épinards. Ils l'ont fini parce qu'ils ont vu la gloire, les gâteaux qui attendra après. C'est exactement ce que Pierre est en train de dire ici. Vous êtes en train de souffrir. C'est pas nouveau. C'est le destin de Christ et vous partagez le même destin. Souffrance d'abord, gloire après. Vous dites, mais où est la preuve? Regardez, tournez 1 Pierre chapitre 5. Et il va dire cela très clairement. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il a dit ailleurs aussi, mais juste pour vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, qui vous a appelé en Jésus-Christ, ça c'est le salut. Il parle bien des chrétiens, il ne parle pas de Christ ici. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ au moment de votre salut, dans quel but? Gloire, après. Mais pendant cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous voyez le lien? Christ, souffrance, passe par la mort, ressuscité. Gloire. vous de même, vous souffrez un peu maintenant, mais vous allez avoir le même destin, être glorifié après aussi, après que vous ayez souffert un peu de temps. Pourquoi je reviens là? Parce qu'il est très important de faire remarquer que la parole au verset 25, en grec, ce n'est pas le même mot que la parole vivante au verset 23. Au verset 23, le mot utilisé pour parole, c'est « logos ». Et au verset 25, le mot utilisé par parole, à deux reprises dans le verset 25, c'est le mot « rhéma ». Vous dites, mais quelle est la différence? Je dirais, il n'y a pas de différence, mais des nuances, peut-être. Donc, il va utiliser dans le verset 25 le mot « rhéma », hein, quand il parle de la parole du Seigneur, la parole ici, c'est le « rhéma ». Et cette parole, c'est le « rhéma » qui vous a été annoncé par l'Évangile. D'abord, le « logos ». Le « logos », surtout dans le Nouveau Testament, signifie toujours, en général, « raison » ou « cause ». Et c'est intéressant de voir que pour les Grecs, le logos, c'est la raison divine ou cosmique qui donne la cohésion au monde. Le monde physique tient, et les Grecs pensaient, c'est à cause du logos. C'est lui la cause qui fait que le monde physique est là. Et pour les Juifs, le logos, ça fait renvoyer à la sagesse qui a créé le monde et qui le soutient. Vous pouvez vérifier dans Proverbe 8, verset 23 à verset 26, ce logos, donc, est identifié à Jésus-Christ. Le logos, donc, désigne une personne, à savoir Jésus-Christ, qui est le sujet central de toute la Bible, la parole écrite. Et le rhéma, quelle est la nuance entre le logos et le rhéma? Le rhéma, c'est, je dirais, une application pratique, très personnelle, au jour le jour de la parole écrite, qu'est le logos. Je veux le redire, le rhéma, c'est une application très pratique et de manière très personnelle chaque jour de logos pour moi. Ou le rhéma est une actualisation dans ma vie personnelle de la pensée de Dieu qui est dans sa parole, de son œuvre qui est décrite dans la parole par le Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un pour illustrer la nuance entre le logos et le rhéma, et je le reprends cette image. Vous pourrez imaginer le logos, c'est comme un puits rempli d'eau. Un puits rempli d'eau. Et le rhéma, c'est comme un seau. Quand vous avez un puits, vous le faites descendre dans le puits, et vous, une fois rempli de l'eau, vous le faites remonter pour l'utiliser. Et pour l'utiliser, pour quoi faire? Soit pour boire, soit pour cuire la nourriture, soit pour se laver, etc., etc. Donc, cette image permet de comprendre cette petite nuance entre les deux. Quand vous lisez, quand vous méditez la Bible, comme si vous êtes en train de puiser avec le seau, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va se servir du logos, le puits, l'eau dans le puits, qui va appliquer à votre cœur pour que cela vous touche d'une manière très personnelle, pour combler peut-être des besoins où vous en avez, vous le ressentez, ou bien pour corriger des attitudes, des manières de vivre qui n'est pas correcte, ou bien pour accomplir un but que Dieu veut pour votre vie, dans une circonstance donnée. Et je comprends mieux maintenant quand il parle dans verset 25, cette nuance. Cette parole, celle qui vous a été, vous. Les prophètes cherchaient quand est-ce que ça va se faire. Ces deux événements, souffrance et gloire, est-ce que ça va se passer en même temps? Ils ne savaient pas. Mais nous le savons maintenant en regardant en arrière, ces deux événements très séparés. Et cet événement, ce destin de Christ, ils le partagent eux-mêmes aussi, leur destin, par le fait qu'ils souffrent. Donc, c'est d'une manière très personnelle, il applique cela pour avoir une meilleure perspective de voir la vie qu'ils sont en train de vivre en étant persécutés dans la souffrance. Mais quel est le lien de cela avec l'amour fraternel sincère, me direz-vous? Je vous ramène toujours parce que on dirait qu'on s'égare. J'essaie de suivre la pensée de l'apôtre Pierre. Mais quel est le lien de cela? Il y a un lien. Tout simplement parce que le Messie, Christ, a souffert dans 1 Pierre 2, 24 pour porter lui-même nos péchés en son corps. 1 Pierre 2, 24 souligne ce verset. Et il dit, afin que, dans quel but? Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous avons parlé tout à l'heure de la manifestation de la vie. Nous avons parlé tout à l'heure de nouvelle vie. Et nous en venons maintenant dans quel est le lien? C'est que cela, c'est une façon de traduire que nos vies ont été purifiées de nos anciens péchés. La mort de Christ, sa résurrection, ont permis cela, que ma vie soit purifiée de mes anciens péchés. Et maintenant, nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons vivre maintenant pour la justice. À cause de cette nouvelle vie de Dieu en nous, donc vous voyez, il y a un lien là. Il y a un lien. Exactement, nous ne sommes pas hors sujet, nous sommes dans le sujet. Et vous savez, les chrétiens, c'est le cas de nous tous, autrefois, dans Tite 3 fois, c'est terrible. Quand on vous donne votre biographie, ce que vous étiez avant, un Romain en parle aussi, mais je cite Tite 3, verset 3, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, je dirais haïssable, digne d'être haï, non seulement digne d'être haï, mais nous haïssons les uns et les autres. Vous voyez bien le lien, qu'il soit quoi, c'est ça ce que nous étions avant que notre vie n'était pas purifiée. Mais maintenant, capable d'aimer, vous voyez, nous haïssons les uns les autres. Maintenant, quelque chose change. Maintenant, nous sommes capables d'aimer les uns les autres d'un amour sincère. C'est un amour vrai, authentique. Et pour terminer, j'en arrive au troisième point, la description de cet amour fraternel. Je vais aller très rapidement. C'est intéressant d'analyser déjà les mots pour amour. Pierre va utiliser donc deux mots. Il y a Philadelphia, qui est traduit ici dans le verset 22, amour fraternel, Philadelphia, qui est un mot composé. Un composé de philos, c'est un autre mot pour l'amour. Et adelphos, c'est le lien. Donc, Philadelphia souligne l'affection fraternelle, les liens affectifs qui sont accompagnés d'entraide et qui prend conscience de l'intérêt commun. Ça, c'est le mot utilisé ici. Et Paul l'utilise assez fréquemment. Je cite Romains 12, 10. Vous n'avez pas besoin de le chercher, mais je vous le donne. Il va utiliser cela dans Romains 12, 10. Par amour fraternel, c'est Philadelphia, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Nous voyons ici la définition, vous voyez. Ce que vous devrez vivre, et ce que c'est, plein d'affection les uns pour les autres. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, il va donner un commandement pour les Thessaloniciens. Paul, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, Philadelphia, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Waouh, c'est important. La vie de Dieu en nous nous rendent capables d'aimer les uns les autres. Mais plus ici, c'est Dieu même qui nous montre l'exemple comment nous aimer les uns les autres. Oui. La ressource, rien ne vient de nous. Tout vient de Dieu. Sa vie, mais son exemple. Hébreux 13, verset 1, un commandement, persévérer dans l'amour fraternel. L'idée ici, dans persévérance, c'est l'endurance qui est demandé dans ce domaine. Ça, c'est le premier mot, c'est important de le souligner, traduit par amour fraternel, Philadelphia, mais il y a le mot agapé qui est traduit par amour dans l'impératif, aimez-vous. c'est le mot agapé. Et on peut dire beaucoup de choses, mais je voudrais juste dire que agapé est un amour fondé sur la volonté, pas les sentiments, sur la volonté. Je décide de t'aimer, quoi que tu me fasses. C'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est un amour fondé sur la volonté. L'agapé nous pousse vers l'autre, même s'il n'est pas aimable, même si notre cœur ne le désire pas. Agapé rend cela possible. Et c'est un amour qui trouve sa source en Dieu, qui a tant aimé le monde et qui l'a donné son Fils unique. C'est de cette manière que nous avons appris à aimer aussi les autres, par la manière comment Dieu nous a aimés. Je dirais agapé, c'est un amour constant qui s'engage dans la durée. Un amour gratuit qui ne donne pas pour recevoir en retour. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui se sacrifie pour l'autre, pour le bien de l'autre. Et revenons dans notre texte où il va maintenant donner les qualités de cet amour fraternel, ce qu'il attend de ses auditeurs. Regardez bien, toujours verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, sans cire, c'est-à-dire sans hypocrisie, qui va au-delà des apparences, au-delà des paroles sans comédie. » Parce que dans le grec, « hypocrite » désigne le comédien. Donc, sincère, sans hypocrisie. Et il dit « amour les uns les autres ». Il souligne la réciprocité. Ça ne va pas que dans un seul sens. Les uns les autres, la réciprocité. Et deux expressions pour souligner l'aspect volontaire de cet amour fraternel. Ardemment, ardemment. Cet amour est vécu ardemment. Ceci souligne à la fois l'intensité, c'est-à-dire un amour fervent, mais aussi la constance, comme je viens de dire tout à l'heure, constance contre tout esprit qui céderait rapidement devant l'indifférence de l'autre, ou même devant une attitude négative de la part de l'autre. Mais cet amour de tout votre cœur, c'est-à-dire un amour qui émane du centre de votre vie, de votre personne, qui touche à la fois vos pensées, qui touche votre volonté, tout votre être entier. Vous savez, l'apôtre Paul, et nous avons la preuve laissée dans la Bible, que sa vie, toute sa vie était caractérisée par un amour sincère, sans hypocrisie. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, verset 4 et verset 6, je vous le cite. Nous nous rendons recommandables à tous égards, à tout point de vue, il est en train de dire, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de vastité, beaucoup de choses, par beaucoup de patience, et je cite, je saute. Et il arrive à terminer par un amour sincère. Sa vie était caractérisée par cela. Et c'est pour cela qu'il a l'audace et la crédibilité de demander aux autres de vivre de tel amour, comme Pierre le demande pour ses auditeurs. Paul lui-même exhorte les chrétiens à Rome à manifester de tel amour. Dans Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, sincère. Le titre du message, vivre dans l'amour fraternel. Sans hypocrisie, c'est possible. Maintenant, je m'arrive à cette conclusion, c'est possible. Paul l'a vécu. Il demande aux autres. Pierre demande aux autres. Donc, c'est possible. Si les apôtres l'exhortent à le faire, mais à condition que votre vie est purifiée, à condition que vous êtes régénéré. car nous venons de dire dans nos développements précédents que la source de cet amour est en Dieu, mais pas en vous. La régénération vous implante la vie de Dieu en vous. Donc la source de cet amour n'est pas en vous, mais en Dieu. La semence de cet amour est plantée dans votre cœur. C'est la vie de Dieu même. Et je dirais, laissez-la pousser, cette vie qui a été plantée en vous. Vous avez pour terminer, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un commandement du Seigneur lui-même. Jean 13, passage que nous connaissons tous, verset 34, verset 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, car je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus est en train de dire dans le verset 25, la manifestation de la vie d'une manière sincère les uns pour les autres, c'est une étiquette, une marque de fabrique à quoi on peut reconnaître les vrais disciples de Christ. Je dirais, vivre dans l'amour fraternel, comme je l'ai dit au départ, c'est vivre un aspect le plus élevé de la sainteté. Et c'est ce à quoi Pierre est en train d'exhorter ses frères. Il veut les amener très loin à vivre cet aspect le plus remarquable. Comme Christ le dit, c'est le badge, c'est l'étiquette. À quoi va-t-on reconnaître mes disciples? Il veut les amener à cette voie-là. Chers frères et sœurs, que la parole de Dieu puisse nous toucher aussi. Par nous-mêmes, nous n'avons aucune ressource, mais la ressource est en nous, la vie de Dieu est en nous. Laissons-nous pousser cette vie. La semence est plantée. Amen.